Merci beaucoup Olivier Decadio d'être en direct avec nous par téléphone et de nous faire cet honneur de répondre à nos questions.
Alors, merci beaucoup, je ne sais pas si je vais bien répondre d'ailleurs, parce que voilà, comme au téléphone c'est pas très facile, mais voilà, c'est comme si je parlais dans le noir un peu, non, tout seul, dans, c'est pas la radio, c'est plus facile si on était face à face, mais on va essayer.
C'est vrai, effectivement, mais...
J'ai fait bon, un grand feu, hein.
Voilà. Orléans n'est pas le centre de la poésie.
Il y a du brouillard autour et voilà.
Ça vous donne un peu le bourdon, alors.
Donc, j'espère que ça va aller.
Bon, on va parler donc de votre dernier livre qui vient de paraître chez POL. Ça s'appelle « Un nid pour quoi faire » et c'est intitulé « Roman » dès la page de couverture. Alors, « Un nid pour quoi faire » intitulé « Roman », quand on le lit, on se dit effectivement que c'est ce que vous avez publié de plus romanesque. Alors, ma première question, c'est est-ce une envie délibérée au départ de l'écriture de ce texte, d'être vraiment un roman, ou est-ce que c'est venu en l'écrivant ?
Alors, cette histoire de mettre roman dessus, je vous avoue que j'y avais pas pensé. C'est mon éditeur qui m'a tout simplement demandé, on n'y avait carrément pas pensé, quoi, deux jours avant la parution, enfin l'envoi à l'imprimerie plutôt. M'a dit alors est-ce qu'on met roman et franchement ni lui ni moi n'y avons pensé, donc c'est une question qui m'intéresse pas tellement, parce que c'est une question du marché, c'est une question de savoir si on veut vendre des livres ou pas, si on met roman, non, c'est souvent pour en vendre, je sais pas, donc c'est pas une question très excitante de roman par roman, et je vous avoue franchement j'y ai pas pensé, et quand il m'a posé la question je me suis dit au fond lui m'a dit oui, c'est vraiment un roman. Alors c'est vraiment un roman. Ce qui est amusant, c'est que se dire que c'est un roman au finish est plus amusant que d'essayer d'en faire un. Donc pour vous répondre, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et je me dis, c'est un roman, c'est-à-dire qu'en fond, j'assume quelque chose. C'est une question, là on pourra en discuter pendant 3 heures, hein, de cette affaire. Qu'est-ce que je veux dire par là en disant c'est un roman? Ça veut pas dire que je consens et que je veux à ce moment qu'il y ait une marque presque publicitaire pour dire lisez-le, c'est un roman, c'est facile, c'est agréable à lire, c'est pas de la poésie, vous voyez? Mais c'est quelque chose d'autre qui se passe quand je consens à dire roman, c'est que, voilà. Il se trouve que j'ai relu récemment un petit livre merveilleux de Daniel Willem sur les romantiques allemands, qui est dans cette collection un peu scolaire qui s'appelle Écrivain de toujours. Je sais pas si vous connaissez ce livre, c'est le romantique allemand, les romantiques allemands.
Non, absolument pas.
Mais
je me le procure.
Merveilleux, qui malheureusement, je crois, est épuisé, qu'il faudrait d'ailleurs réimprimer au plus vite. Et qui est un texte, alors vraiment extraordinaire, et qui, pour le coup, quand on a lu ce livre-là, on a envie de mettre roman sur les livres. Parce que justement, roman veut dire livre, au sens généreux, au sens large, voilà.
Donc d'accord pour l'appellation roman sur la couverture, néanmoins, est-ce que l'idée que « Un nid pour quoi faire » pourrait se lire comme un roman, est-ce que ça vous est complètement étranger ou pas ?
C'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça veut dire se lire comme un roman, au fond. S'il y a des romans qu'on aime, je ne sais pas moi, Arnaud Schmitt, Proust, Joyce, ou je ne sais pas, pour prendre des exemples énormes et anciens, ou Prigent, ou je ne sais pas, est-ce que c'est pour autant une lecture plus facile? C'est quelque chose qui, en tout cas, dit « lisez-moi dans le temps ». C'est-à-dire, le déroulé de ce que je vous propose a du sens. Peut-être que l'indication roman dit « plongez-vous dans... » Même si vous pouvez lire par extrait, par morceau, c'est pas un recueil, les choses ne sont pas posées les unes à côté des autres, voilà, elles sont empilées dans un sens légèrement différent. Donc voilà, donc est-ce que c'est votre question, c'était est-ce que c'est plus facile? C'est ça au fond, non?
Non, c'est est-ce que vous avez pensé à cette idée du roman comme par exemple vous pensez à l'idée de poésie? Parce que bien entendu, le contenu d'un nid pour quoi faire,
romanesque avec une petite.
Voilà, c'est-à-dire qu'un nid pour quoi faire, bien entendu, peut se lire complètement comme une expérience de poésie avec des idées qui concernent, bien entendu, dans la fabrication, en tout cas, la poésie. Et là, en lisant encore plus que dans Retour définitif et durable de l'être aimé, où on va y revenir, vous utilisez à peu de choses près la même forme, on a vraiment la sensation de rentrer dans une histoire. Alors ça, on va en parler aussi ensuite de cette histoire-là, de ce sujet-là que vous avez choisi. On a l'impression de rentrer dans une histoire et de se dire, moi c'est l'impression que ça m'a fait, j'ai l'impression que c'est ce que ça pourrait se rapprocher à peu de choses près d'un roman. Et en fait, pour alimenter un peu ce propos-là, c'est Michel Gauthier, dans le livre qui vous est consacré aux presses du réel, qui s'appelle Olivier Cadieux, le facteur vitesse, je vais le citer, qui dit « La poésie réussit donc quand elle se souvient mal du roman. La poésie atteint son but quand elle met le roman en pièces. »
Oui, ça c'est vraiment une formule de romantique allemand.
pour le coup.
C'est vrai. Je vous avoue que tout ça est moins stratégique dans ma tête. C'est-à-dire que je crois que je n'arrête pas effectivement, sans doute, de bouger en moi la notion même de poésie et de roman. J'arrête pas de les faire jouer l'un contre l'autre toute ma vie. Je sais pas très bien dans quel sens je me mets. Et je vous avoue que dans le travail de ce livre, je me suis vraiment plongé dans la matière même, dans le sens même. C'est-à-dire je me suis vraiment occupé de la construction assez lente et assez... assidu de l'écriture même, des paragraphes, etc., en me souciant, au fond, pas du tout de la forme. Et ce qui se passe, ce qui est amusant, c'est que, c'est à la fin, si vous voulez, on en parlera peut-être tout à l'heure, les paragraphes, en s'accumulant, en se développant, produisent des espèces de... Je sais pas comment on pourrait dire, des restes, ou des espèces de feux d'artifice, comment on les voit, comme si le bout des paragraphes devenait des poèmes. C'est-à-dire que il y a des espèces de petits éclats, de petits... comme si la parole se chauffant, parce que ce sont souvent des monologues suractifs, enfin surgonflés, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure comment j'essaie de les faire, au bout d'un moment produisent un effet peut-être de surchauffe, et boum, ça fait comme une bombe surprise, tac, ça fait des petits éclats qui ressemblent effectivement à des poèmes. Donc au fond, il y a de la poésie, curieusement, au bout d'une logique de fiction, de narration.
Alors
ça, c'est très très bizarre. C'est-à-dire, déjà, je dis un truc assez contradictoire, c'est que le projet n'est pas poétique au départ, il le devient dans sa fabrication. C'est-à-dire, en avançant, le texte produit la poésie, ce qui serait idéal pour moi. Moi, ce qui serait idéal, c'est qu'il n'y ait plus de poètes, quoi. C'est qu'il y ait des livres qui produisent des poèmes. C'est pas tout à fait pareil. Alors, c'est là où je peux me sentir proche, curieusement, de Tarkos, par exemple, même si ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, une espèce de manœuvre très bizarre, qui est de construire une sorte d'engin, si vous voulez, qui serait, on va appeler ça un roman, qui, en s'affolant, produit des poèmes comme une machine à poèmes. Alors donc, oui, et curieusement, au bout du compte, si je rassemble l'expérience au fini, je me dis, ah, finalement, c'est un roman. Vous voyez, comme tout ça est assez aléatoire, et toutes ces déterminations, un peu comme ça, roman, poésie, c'est à la fois très 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 important, et en même temps complètement dérisoire, puisque les choses s'inversent en permanence.
Et effectivement, et vous l'exprimez bien là, avec ces espèces de restes de paragraphes qui deviennent des bouts de poèmes. Et j'ai envie de continuer à vous interroger sur la forme. Vous dites que vous n'avez pas eu ce souci de forme dans Annie Pourquoi Faire. C'est peut-être aussi parce que vous utilisez la même forme que Retour définitif et durable de l'être aimé, que vous vous sentez tellement bien dans cette forme que vous avez envie de la continuer, de la prolonger.
Oui, sauf que... Alors, dans le précédent livre, au fond, j'avais trouvé, d'ailleurs à la fin du travail, j'avais trouvé cette solution qui consistait à interrompre des paragraphes par des vers, enfin, ou par des sentences, ou par des petits mots, comme ça, qui venaient couper, finalement qui jouaient le rôle de point. J'avais alterné des paragraphes avec des virgules qui enchaînent des choses très contradictoires et très rapides à des espèces de
petites lignes toutes seules, oui, qui font une phrase assez courte généralement.
Et qui étaient souvent des commentaires, des légendes, des titres, et souvent qui permettaient au lecteur et peut-être à l'écrivain aussi de se sortir de ce qui venait d'être dit. C'est une manière aussi de différer, de dire bon, comme une ardoise magique, vous savez, comme on allume, comme on annule ce qu'on vient de dire, et qui permettait de faire place neuve aussi, pour un nouveau propos. Et puis je me suis rendu compte que si je poursuivais cette méthode là, une nouvelle fois, ça risquerait de devenir sentencieux. Et au fond, c'est pour ça que j'ai laissé place, j'ai remplacé au fond ces petits inserts souvent par des sortes de poèmes libres.
Le vers libre, très court,
vraiment libre. Ce vers dont je vous parlais à l'instant, ces petits poèmes produits par la machine prose, comme ça, qui sont
Mais ça se produit pas très très régulièrement. Enfin, ça se produit pas très très souvent, j'ai l'impression.
Vous avez raison. Ouais. La forme est un peu la même, je sais, mais vous avez raison en fait, mais j'essaie de me cacher la vérité.
Parce que du coup, ces petits restes de paragraphes qui deviennent des bouts de poèmes, ça arrive quand même assez peu fréquemment.
Ouais.
C'est quoi, c'est votre inconscient de poète ? Pardon, la question est un peu brutale.
Non, mais c'est une question dont ce qui est assez merveilleux. Enfin, je pense que si il y a des auditeurs poètes qui vont entendre ça, on va être peut-être d'accord sur un point avec moi, c'est que c'est d'une complexité terrible parce que on peut pas en avoir. Je n'aurais pas de maître mot là-dessus. Je sais pas très bien ce qui se passe avec tout ça. J'ai l'impression que ce qui a fait l'essence même de mon travail de poésie jusqu'ici joue dans mon travail d'écriture de prose. C'est-à-dire que la manière que j'ai de sélectionner, d'agglutiner, de forger des phrases, c'est là où je suis poète, si vous voulez. Et curieusement, quand je fais quelque chose qui ressemble à un poème, je suis... oui, alors c'est peut-être vrai dans un inconscient, c'est dans un souvenir. Je salue quelque chose qui est la forme du poème d'avant. Je donne un coup de chapeau au poème qui, pour moi, est toujours une forme nostalgique. Ça ne veut pas dire ancienne... Mais quelque chose qui a à voir avec la ritournelle, la chanson.
Des choses qui reviennent comme ça, effectivement.
Des effets de... Le poème, c'est de la rengaine pour moi, alors, au meilleur sens du terme. Hein.
Avec des effets de répétition, mais que vous n'utilisez pas. Vous n'utilisez pas cette forme de répétition.
Non, parce que je l'ai fait quand j'ai fait mon premier livre de poésie. J'ai fait un livre qui s'appelle L'art poétique.
L'art poétique, tout à fait.
Qui fonctionne vraiment par boucle. Où les choses sont souvent répétées. Et je ne pouvais pas répéter la répétition, non, ça aurait été gênant. Ça aurait été un truc terrible.
Parce qu'on a même, à l'inverse, au contraire d'une écriture par boucle ou répétitive, bon, on pourrait prendre l'exemple de la ritournelle et de cette théorie de la ritournelle telle que le conçoit maintenant Christophe Fiat. Vous, qui a des effets de vitesse, du coup, qui concerne cette problématique de la vitesse dans l'écriture, vous avez toujours cette problématique, j'ai l'impression, de cette vitesse, et ça fonctionne plutôt par une écriture qui fonctionne par raccourci, qui pourrait presque être, le raccourci pouvant être presque l'antithèse de cette écriture par ritournelle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que, aussi, avant, jusqu'à ce livre-là, j'avais tendance, au fond, pour aller... Comment vous dire ça autrement ? Je crois que j'avais tendance à maintenir à l'intérieur d'une fiction des zones un peu... alors, je ne sais pas si c'est répétitif, mais on va dire magique ou chamanique. Des endroits où on pouvait... Où d'ailleurs, j'avais des facilités moi-même pour lire à haute voix. Parce que la poésie, c'est aussi lié pour moi à la lecture publique, à la voix qui... J'ai, beaucoup, par exemple, beaucoup de mal... Je vais avoir beaucoup de mal à lire ce prochain livre à haute voix, parce qu'il est beaucoup trop hétérogène, et qu'il y a justement peu de zones protégées, on va dire, de parcs naturels, non, la poésie c'est ça, de parcs naturels à l'intérieur. Jusqu'ici, je crois, et c'était aussi, pardon de faire un coq à l'âne, mais c'était le projet que j'avais avec Pierre Alféri dans la revue que nous faisions autrefois chez POL, la revue de littérature générale. Le projet était de dire, voilà, on aime beaucoup la poésie, mais on veut la garder, mais on veut l'enchasser dans quelque chose de plus grand. On veut la... Alors voilà, et je pense que pendant assez longtemps, j'avais tendance à dérouler une fiction et en même temps à protéger des moments de... Je ne sais pas si c'est des moments de grâce, ce serait trop pour moi, mais enfin des moments de... Des moments d'extase, des moments de... Alors peut-être effectivement de répétition, de... Et à force de travailler, à force d'avancer... Et à force aussi de vouloir absolument enlever les choses que je sais faire, il n'y a plus de moment de pur poème dans le livre. La poésie est diffractée, ou la poésie a été dévorée par la prose, ou la poésie a dévoré la prose, j'en sais rien. Au fond, c'est ça qui est excitant dans ce projet. Je sais pas si je suis très clair, hein, je mélange un peu.
Vous êtes complètement clair,
je vous écoute. Parce que je mélange, je sais pourquoi, parce que c'est très très compliqué, je suis pas certain de dire des choses précises là-dessus, parce qu'au fond, si vous voulez, ce qui est extrêmement excitant, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, je sais pas. Ce problème, c'est un truc de Möbius, vous voyez, ça se déroule. Exactement comme le rapport de, je sais pas, comme on disait dans La Guerre des Michas quand on était petit, la forme et le fond, les contenus deviennent des formes, les formes deviennent des contenus, et des poèmes deviennent des fictions, et, des fictions. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est je pense qu'en plus, en avançant dans l'écriture, j'ai un rapport de moins en moins clair à tout ça, et de plus en plus charnel. Alors, et je vois des choses contradictoires en même temps. Alors, je vous avoue que c'est très difficile à transcrire, enfin, en tout cas à l'oral, comme on est en train de faire.
À l'oral, effectivement. alors, je trouve qu'il y a un rapport à. Enfin, j'ai l'impression que la vitesse, le facteur vitesse, est toujours un de vos centres d'intérêt. Et que c'est toujours dans Annie pourquoi faire. Est-ce que cette question de la vitesse, qui a été une question aussi importante et cruciale dans votre travail, par exemple dans l'art poétique, est-ce que cette question de la vitesse est toujours votre grand centre d'intérêt? Est-ce qu'en écrivant Annie pourquoi faire, vous cherchez encore à résoudre cette question de la vitesse?
Là, je vous avoue que franchement, je n'y pense absolument jamais.
C'est-à-dire parfait.
Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que la vitesse, c'est quelque chose que les autres voient. Moi, j'ai l'impression. D'une part, je me suis mis à lire mes textes à haute voix, très vite. La première fois, d'ailleurs, c'était au Musée d'Art Moderne, c'était invité par Emmanuel Occart, c'était en 83, la première lecture. Et je n'avais à répéter, et j'ai lu par trac, par angoisse, j'ai lu très vite. Comme je suis peut-être en train d'ailleurs de parler très vite, mais j'ai lu très vite. Et tout d'un coup, le texte a pris un sens, a pris une certaine justesse que je n'avais absolument pas prévue. Et j'ai continué toute ma vie à lire vite. Et c'est vrai qu'après, la lecture de l'écrivain, c'est-à-dire celle qui consiste, enfin celle que vous déroulez quand vous travaillez, parce que ce qui est compliqué, c'est pas tellement d'écrire, c'est surtout de s'entendre, de se corriger à l'infini. Et la lecture rapide, comme ça, c'est celle seule qui permet de vous corriger, je trouve. Comme qu'on doit se reculer pour voir un tableau, vous voyez. Il faut trouver avec la littérature il faut voir les bords de ce qu'on fait, donc il faut accélérer pour pouvoir agir. Alors, donc la vitesse, d'une part, ça vient chez moi comme ça, d'une chose pulsionnelle et pratique. Mais après, je ne la cherche absolument pas concrètement dans les livres. Au contraire, j'essaie d'être lent. Je cherche désespérément la lenteur. Et je cherche désespérément à trouver des systèmes pour arrêter le flux de la prose ou de l'oral. Je ne sais pas si c'est la prose, c'est un très mauvais mot, je ne sais pas quel mot employer. On va dire l'oral, de la parole, je ne sais pas, de ce qui se déroule dans un livre. J'essaie de trouver des subterfuges pour arrêter.
Pour arrêter ce
flux de parole.
C'est bien
pour ça que je mets des blancs dont on vient de parler un instant. Tous ces blancs, tous ces subterfuges techniques, tous ces poèmes, tout ça, c'est pour essayer... d'autoriser le lecteur à respirer.
D'accord, c'est autant de...
Donc je lutte contre la vitesse.
D'accord, vous luttez plutôt
J'ai peur de faire embarquer.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a affaire là à des sortes de dialogues. Enfin, ça pourrait être un texte à ni pourquoi faire qui pourrait être pour le théâtre, par exemple. D'ailleurs, est-ce que vous y avez pensé à cette idée du théâtre?
Alors, ça c'est aussi, vous voyez comme c'est bizarre, ça va être comme la poésie, le théâtre, on peut prendre aussi ça, théâtre versus roman. Alors, cette fois-ci, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire du théâtre de manière tout à fait...
Ou de l'opéra.
Le théâtre, au départ, c'est pas du tout mon goût, enfin j'aime pas du tout le théâtre.
Vous préférez l'opéra, alors peut-être?
J'aime pas l'opéra non plus.
Voilà. Non plus.
J'aime l'opéra quand...
Quand c'est avec du sapin.
Si, oui, j'aime certaines choses d'opéra, mais... J'aime pas particulièrement le théâtre. J'ai été aussi éduqué quand j'étais petit à la lecture publique par les auteurs et pas par les comédiens. Donc au départ, je suis pas du tout un bon client pour le théâtre. Mais grâce à Ludovic Lagarde et à ses acteurs comme Laurent Boitrenaud, j'ai découvert toute une nouvelle dimension pour moi du corps parlant, enfin qui me correspondait vraiment. Enfin, j'avais pas prévu ça. Alors, on a fait des expériences étonnantes, surtout le Colonel des Oies, un de mes précédents livres qu'on a monté. Mais là, j'ai voulu interrompre. Je suis certain qu'on va certainement faire quelque chose avec ce livre, mais il n'est pas du tout prévu pour le théâtre. Le problème du théâtre, c'est que quelquefois, ça se prépare sur des années. Et alors donc.
Là, ça sera peut-être quelqu'un qui s'en emparera.
Oui.
Pour que ça soit dit au théâtre, parce que on a l'impression, en le disant, c'est vrai qu'on des sortes de dialogues, qu'en tout cas, ce sont des paroles, et donc des paroles que vous interrompez par du blanc. C'est très scénique.
Oui, Mais c'est justement, oui, mais le fait de ne pas l'avoir prévu du tout pour le théâtre, même si un jour il faudra l'adapter peut-être, et ça passera au théâtre par une adaptation assez complexe, c'est d'autant plus amusant que tournant le dos du même coup à la commande de théâtre, comme ça apparemment, j'ai pu sans vergogne faire rentrer du théâtre. C'est-à-dire qu'en sachant très bien, en me disant, ça, de toute façon, ça n'en sera pas. Donc, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il n'y a jamais eu autant de théâtre, entre guillemets, que dans ce livre, puisqu'on a vraiment l'impression d'assister à des scènes. Par exemple, toute la première partie du livre, toute la première partie qui campe cette espèce de cour royale, il n'y a aucune didascalie, il n'y a pas de narrateur qui...
Non, pourtant, on comprend bien à chaque fois qu'il dit.
Tout est fait par l'oral.
Tout à fait.
Ça m'a aussi amusé comme une contrainte. Je sais pas pourquoi, qu'on puisse rentrer dans le décor, cette espèce de chalet étrange, ce chalet-château, cette cour royale enfermée dans un chalet, et qu'on puisse le voir par les yeux de la parole, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il me fallait des personnages comme des guides. Donc évidemment, c'est du pur théâtre. Mais alors, je crois par exemple, je supporterais pas que ça aille directement au théâtre comme ça. D'accord. Parce que je trouverais pour le coup que ça, si vous voulez, l'intérêt d'un livre, c'est qu'on ne voit pas, qu'on est au bord de la représentation, et que donc on peut s'approcher très près d'un certain réalisme en sachant que dans le temps réel de la lecture, le lecteur fabrique des images et puis les défait. C'est ça qui est merveilleux avec un livre. C'est qu'au fond, par exemple, mes personnages qui sont effectivement incroyablement théâtraux, enfin, c'est vrai que par rapport à la poésie que je faisais avant, je m'engage beaucoup plus sur le plan de la représentation, mais je le fais parce que je suis dans l'espace du livre où je peux produire des contradictions, c'est-à-dire où le lecteur peut pendant peut-être une demi-seconde voir quelque chose et après il va voir autre chose et ça va avancer et j'espère qu'il ne verra rien au final parce que le livre est dans le noir aussi, à un endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport à la scène qui est suréclairée, surreprésentée.
Parce qu'on a l'impression que ce sont des paroles presque qui des fois se disent dans leur tête. On
ne
pense pas
ça.
Forcément que ce sont... Bon, on a l'impression quand même que la plupart du temps, ce sont des paroles qui sont dites pour être entendues par d'autres et qui ont l'air d'être entendues par les autres figures, les autres personnages du texte. Mais des fois, on a vraiment l'impression que c'est des paroles dans leur tête également.
Exactement.
Donc c'est cet effet de noir, effectivement. Ça, c'est pas vraiment dit, quoi.
C'est ça. C'est comme s'il y avait une scène impossible. Et c'est ça qui est émerveillant dans un livre. C'est qu'on peut avoir les pieds dans la réalité, dans l'imaginaire. Enfin, en même temps, c'est idiot ce que je viens de dire, parce que c'est pas la question simplement du réel et de l'imaginaire. Mais c'est qu'on peut se déplacer dans le cerveau, qu'on peut être dans la parole entendue. Il peut y avoir des... je sais pas, il n'y a pas simplement le discours indirect libre ou le discours solitaire oppressé. On pourrait faire des centaines de catégories de discours. Au fond, c'est peut-être ça que permet un livre, c'est de donner un spectre énorme de la présence de la parole.
Alors, cette parole qui est dite, c'est la parole d'un roi, entre autres. C'est la parole de sa cour également, qui parle peut-être un peu moins que le roi. Et puis, c'est la parole de ce conseiller en image. Alors, le sujet, il est complètement improbable. Il est même furieusement fantaisiste. C'est un sujet curieux pour fabriquer de la fiction de cette cour royale qui est en exil à la montagne. Alors, ma question, c'est... Pourquoi ce sujet ? Enfin, qu'est-ce qui vous permet de faire ce sujet-là ? D'où ce sujet vous est venu ? Et pourquoi ? Parce que ce sujet-là, vous le continuez tout le livre. Enfin, à la fin seulement, vous faites exploser la cour royale. Enfin, pas exploser, mais plutôt enfermé dans les geôles en bas du chalet, on va dire. Mais pendant 300 pages, on a cette cour royale complètement improbable. Pourquoi ce sujet-là ? Qu'est-ce qui vous permet de faire ce sujet ?
C'est-à-dire que vous pourriez presque me poser la question pourquoi Robinson, parce que
oui, pourquoi Robinson, mais ça Robinson, on avait l'habitude.
Oui, parce que je fais le même depuis disons 5 livres. Je travaille sur le même sujet pratiquement. Le colonel des Oives, c'était un domestique zélé enfermé dans un château anglais. Il y avait déjà un château anglais bizarre. Après, il y avait la maison Gertrude Stein dans Fairy Queen. je pense que c'est pratiquement, depuis Futur Ancien Fugitif, le dispositif est pratiquement le même. Et je vous avoue que j'ai un mal fou à changer de scénario. Alors, je suis mono-scénario. J'espère que, je sais pas, ça va pas devenir terrible pour les gens qui me lisent. Mais, ce qui se passe, c'est que, au fond, je travaille pendant assez longtemps des scènes séparées. Et je travaille vraiment intensément des scènes sans savoir exactement comment elles vont, à quoi elles vont servir. Quelquefois, même, je suis inquiet de voir leur destin. Quelquefois, il y a des choses que je suis obligé d'abandonner. J'appellerais ça presque des scènes mortes, enfin des scènes qui sont des dispositifs très précis, mais qui sont inactifs, enfin c'est très étrange. Et puis, à force d'avancer, le scénario se construit, et si vous voulez, je crois que si on prend simplement cette idée d'un narrateur, on va prendre ça parce que c'est un roman, alors on va parler de narrateur pour être classique. On va dire que s'il y a un narrateur ou une figure ou quelque chose comme ça, ou un sujet ou une parole qui se déplace dans tout ce livre, eh bien, j'ai envie qu'il passe par tous les points, par des points successifs qui me donnent des sensations différentes. Enfin, au fond, je construis un parcours. C'est pas un hasard si je parle de ski. Je construis une piste. Et à un moment donné, si j'accumule et que je réunis les fils de ces sensations nécessaires, ben j'ai le scénario aberrant, qui vous avez raison, ce scénario tiré par les cheveux, parce qu'il est justement tiré par les cheveux au sens strict. Une cour royale en exil à la montagne, dans un chalet, cherche conseiller image. C'est le résumé de toutes ces scènes orphelines qui sont réunies. J'avais envie de tout ça, alors je pourrais vous parler pendant des heures de chacun des points, de chacun des mots. Vous savez, comme quand on est enfant et quand on fait des petites croix pour faire des dessins, on réunit par un seul trait les petites croix, et puis on obtient, je sais pas, un canard, ou vous voyez,
oui, mais parce que
on fait apparaître une figure. Au fond, il y a une figure qui est le scénario dont vous me parlez, qui arrive non pas à la fin, mais disons au milieu du travail, et qui est la seule solution possible. La seule solution possible, c'était cette cour royale en exil. Donc, si vous voulez, c'est pas une décision comme ça de romancier. C'est pour ça que je suis pas du tout un romancier au sens classique, qui tout d'un coup a une idée. Tiens, voilà, une idée originale. Ah, tiens, j'ai envie de faire un truc sur la cour royale en exil à la montagne. Vous voyez ?
Non, ce sujet vous est venu en écrivant et en croisant les textes. Hein, d'accord.
À force d'accumuler les contraintes, parce que j'avais peut-être envie de parler de... J'avais besoin de la neige, j'avais besoin d'un espace à la fois petit et grand, qui était un chalet, un château. J'avais besoin d'une parole dépressive et agressive et liée au pouvoir, comme celle du roi. J'avais besoin de faire que ce Robinson, un peu à la retraite, qui est le personnage de ce livre, et tout d'un coup devienne une sorte de spécialiste triste du marketing. Vous voyez, j'avais besoin de tout ça pour pouvoir écrire ce que je voulais. Alors, c'est un peu bizarre. Au fond, c'est le couteau sans manche, non ? Et le manche, je sais jamais comment on dit, le couteau sans manche et la lame sans... Vous voyez ? C'est-à-dire que faire un livre, c'est ça, c'est avancer un certain nombre de propositions, les travailler à l'extrême, et puis se rendre compte qu'au bout d'un moment, hop, elles produisent une histoire, et puis progressivement, après, c'est se retrouver de l'autre côté et la raconter, l'histoire.
Ce sujet, il vous permet d'être dans la réalité actuelle du monde, parce que le sujet, il est fantaisiste, là. Mais
oui.
Ce conseiller en image, là, c'est presque... Enfin, c'est quelqu'un qui fait du marketing,
oui,
même,
oui, c'est bien
même
sûr,
pas
oui.
Par conviction, ça n'a pas l'air d'être son métier, mais... Il fait du marketing. Est-ce que je recherche le roi, c'est quelque part faire du marketing. Alors on n'en voit pas bien pourquoi, mais vous ancrez ça dans les réalités actuelles du monde. Vous avez envie de parler du fonctionnement.
Oh, ben c'est vrai que depuis le colonel des Oives, ça m'a toujours beaucoup beaucoup intéressé. Le colonel des Oives qui délirait par exemple sur la notion de service qui était vu du point de vue d'un domestique. Bien sûr, un peu un butler anglais. Enfin, ça avait l'air d'être un roman du 19e siècle. Et en fait, ça, je me suis beaucoup servi de choses que j'ai sues sur, je sais pas, sur le monde de la publicité, par exemple. C'est-à-dire le monde du service. Et ça m'intéresse énormément. Et c'est vrai que là, je vous avoue que tout ce que j'ai entendu sur la vie politique française, ça m'a énormément servi, c'est vrai.
Parce que vous dites à un moment donné, enfin, c'est le poète de cour qui dit, c'est les paroles de poète de cour, parce qu'il y a un poète de cour, forcément. D'ailleurs, c'est marrant, parce que ce poète de cour, à un moment donné, c'est le roi qui dit qu'au fond, ce qu'il aimerait faire, c'est de la poésie. Ce poète de cour dit, et puis ce qui est beau, c'est que c'est politique. C'est oui. Marrant que le poète de cour, ça soit lui qui dise ça. Et
oui,
puis,
non,
ce qui est beau, c'est que c'est politique.
Non, mais là, les personnages de ce livre sont des gens profondément corrompus. C'est ça qui m'intéressait aussi. C'est des gens qui sont dans une inversion. Alors, ça d'ailleurs, ça me permet de vous dire quelque chose, peut-être pour répondre à la première question auquel je n'ai pas bien répondu. Pourquoi j'ai envie d'un roman, au fond? C'est parce que j'ai une liberté plus grande que si je restais poète au sens strict, c'est-à-dire si je faisais des formes plus... on va dire plus distancié, plus minimal. Ce qui m'intéresse, au fond, c'est, pour dire un mot prétentieux, mais je sais pas, c'est les sociolectes, c'est les particularités de langage. Si vous voulez, je crois que je viens d'un monde lié à la poésie très, très fortement, mais qui a envie de... J'ai envie de retranscrire des... Je sais pas, on dit aussi idiotisme, non ? Des particularités, c'est absolument passionnant. Alors, c'est vrai que mon projet est étrange, c'est vrai que je ne sais plus très bien où je suis, et je vous avoue,
vous êtes à cheval,
d'ailleurs,
oui.
C'est à la fois agréable et très très désagréable, quelquefois, parce que je ne peux plus légiférer, enfin, je ne sais pas si je l'ai jamais fait, mais sur mon propre travail, je ne sais plus par quel bout attraper mon travail. Là, je fais une confession, parce que je suis tout seul au téléphone, mais je ne sais plus... que je cherche, je sais seulement que je suis attiré par quelque chose qui a à voir avec une certaine exactitude. J'ai envie d'une certaine exactitude de je ne sais pas quoi.
Est-ce que vous avez envie aussi, en même temps que cette exactitude, est-ce que vous avez envie d'une certaine lisibilité ? Parce que j'ai l'impression quand même, bon, c'est intitulé roman, vous avez expliqué pourquoi, d'accord. Mais il y a quand même un souci d'avoir envie d'avoir un texte lisible partout, c'est j'ai l'impression... qu'un ni pourquoi faire pourrait être mis dans les mains de n'importe quel lecteur qui n'est pas forcément habitué à lire des choses difficiles et que c'est complètement lisible et que c'est presque que souci de lisibilité. J'ai l'impression même que c'est ce qui fait toute la réussite du texte.
Alors écoutez, ça je sais pas, d'abord c'est pas à moi de juger. C'est vrai que j'ai envie de... c'est vrai que, on va dire plutôt les choses autrement, que l'illisibilité n'est pas une vertu pour moi. Ça ne veut pas dire que la lisibilité est une vertu. L'illisibilité n'en est plus une. C'est-à-dire, je ne crois pas que le texte, que, par exemple, qu'un texte pour être important et beau doit être opaque. Même si il faut qu'il y ait une très belle, il faut qu'il y ait une zone d'ombre dans le livre, dans les beaux livres, pour que une zone, je ne dis pas d'illisibilité, mais une zone préservée, une zone étrange, pour qu'un livre soit beau. Enfin, disons, pour qu'un livre soit beau, il faut qu'il y ait des zones. Des multiples zones. Alors, simplement, c'est vrai que je fais un effort. Je ne sais pas si c'est pour être plus lisible, mais je fais un effort de... Le critère de mon travail, c'est le sens. J'essaie d'être clair. Alors, j'essaie d'être clair, mais plus j'essaie d'être clair, plus évidemment, à chaque livre, mes contraintes sont plus grandes, c'est-à-dire je fais rentrer un flot d'informations plus important. C'est-à-dire que, comme j'ai l'impression, même peut-être que je me trompe, de gagner en clarté, alors je à chaque fois je ramène une brouette supplémentaire d'emmerdement, vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est ça qui est compliqué. J'ai l'impression de faire exactement le même travail qu'au début avec l'art poétique. Dans l'art poétique, je faisais déjà des petites scénettes. J'ai relu ça autrement en oubliant le geste poétique et en regardant ce qui était vraiment en jeu, et je me suis dit, au fond, je fais la même chose aujourd'hui, des espèces de scènes de paroles où on ne sait plus très bien si ce qui est parlé est écrit, si ce qui est écrit est parlé. Et c'est vrai que j'essaye désespérément de le rendre clair, mais est-ce que je veux être lisible? Parce que je crois malheureusement, je vais vous dire franchement, malheureusement, je crois que ça reste compliqué. C'est pas du tout que je veux décevoir les auditeurs, mais c'est pas que ça reste compliqué, mais ça reste complexe.
Mais il y a des effets qui...
à un autre endroit, enfin j'espère, écoutez, alors là, je c'est pas à moi de le dire, c'est lisible dans une certaine, dans un certain enthousiasme. Si on commence à sortir un crayon et on dit voilà, pourquoi, si on est un peu pointilleux et qu'on essaye absolument de disséquer le texte en disant oui, mais alors quel est le lien entre ça et ça?
C'est-à-dire que dans ce souci de lisibilité, je trouve que c'est là où ça fait la réussite du texte, parce qu'on est bien d'accord, votre texte résout des problématiques qui sont plutôt complexes, et ces problématiques complexes, il pourrait plutôt en découler un texte difficile d'accès, et vous, vous en faites quelque chose, au contraire, dont, enfin c'est l'impression que c'est un fait, qui a un souci de lisibilité, et en fait, ma prochaine question, c'est plutôt sur votre sujet là, de votre texte. Il permet énormément la jubilation. Il permet à la langue de jubiler. Oui. C'est peut-être là l'origine de.
Oui, c'est vrai.
De cette impression pour moi de lisibilité.
Oui, c'est plutôt ça.
Vous pensez la jubilation.
Oui, c'est vrai.
Votre texte
oui.
a des effets comiques. Enfin, c'est fabuleux. La langue alors, jubile. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors ça c'est vrai que le comique. Hein, enfin, le comique, je sais pas. Enfin, ou tout au moins le désir de jubilation. Ça, c'est aussi une envie de clarté. Mais comment vous répondre bien J'utilise. Enfin, c'est pas que j'utilise. En tout cas, on dirait que je suis un stratège. Mais je veux dire que je vais vers le comique parce que je pense que le comique a une puissance de libération très très grande, une puissance d'illumination comme ça. Et que. C'est vrai que tout d'un coup les litanies narcissiques souvent des écrivains par exemple tournées vers eux-mêmes même si elles apparaissent comme ça comme assez simples deviennent pour moi non opaques et pour le coup pas claires, pas lisibles. Ça veut pas nécessairement dire compliqué et difficile à lire. Voilà, on va s'entendre sur une nouvelle idée de lisible, pas lisible. Lisible, ça peut être aussi simplement inutile. Et c'est vrai que la gaieté est utile, parce qu'elle libère, elle a une puissance de libération, même s'il ne fait pas voir grand-chose, mettons, même si ce qui est en jeu est petit et minuscule, des petites étincelles, on est déjà content, non? Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens à la lecture d'autres textes que les miens. Quand ils sont comiques, puissamment comiques, alors je suis heureux.
Alors vous êtes heureux, et alors vous posez cette question de l'utilité, et alors moi j'ai envie de vous demander... Parce que le titre, c'est un nid pour quoi faire.
Ouais.
Mais pourquoi ce pourquoi faire? Dites-nous. Alors, un nid, on comprend les enjeux dans le sujet du texte. Cette cour en exil, on peut imaginer que c'est un nid. Et ce titre, il pirate quasiment votre fiction. Il dit un nid, mais pourquoi faire?
Ben oui, c'est parce qu'il y a une autre histoire. On a encore le temps?
On a tout à fait le temps que vous nous expliquiez cette autre histoire.
L'autre histoire, c'est l'histoire de la cour royale. Et puis. Notre petit conseiller qui... Je vais raconter ça comme si c'était du Tintin et Milou. Pendant son voyage vers cette cour royale terrifiante, enfin, bon, d'un château à l'autre, il rencontre au plein milieu d'une montagne, au milieu de son voyage, il tombe sur un nid à taille humaine, fabriqué par un artiste, visiblement, abandonné, sur une œuvre d'art abandonnée au milieu d'une forêt. Alors il se demande à quoi ça sert. À quoi sert une œuvre d'art abandonnée? C'est vrai que tout le cœur du livre et tout le début du livre, c'est ça. C'est un nid pour quoi faire? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Imaginez une œuvre de Landart, une œuvre faite donc d'un amateur, 1000 ans après, recouverte de lianes, quoi, comme un temple maya. Une installation perdue dans la campagne que personne ne va jamais voir. Voilà, alors, ça m'a beaucoup questionné, ça m'a beaucoup amusé de tourner autour de ça. Et c'est vrai que le héros a un problème avec ça, un nid pour quoi faire. Et puis d'ailleurs, on verra dans le livre, en avançant, qu'il se trouve lui-même dans la situation. Il se trouve lui-même grâce au roman, c'est là où le roman est utile. C'est que le roman, comme dans les contes, nous fait passer dans des situations extraordinaires qui nous permettent de réaliser des choses imprévues. Et à un moment donné, le héros va se retrouver dans une situation bizarre, il va se retrouver lui-même à fabriquer un nid de fait. Dans le livre, tout se passe toujours deux fois, une fois en faux, une fois en vrai, une fois en farce, une fois en tragédie, une fois... Et le nid, à un moment donné, il finit par en faire un, parce que c'est la seule solution pour s'en sortir. Il fait un nid, pour se faire une petite halte au milieu des bois. Alors un nid, pourquoi faire? Je sais pas, il n'y a pas de point d'interrogation sur le livre, alors ça va.
Et tant mieux, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une affirmation, un nid, pourquoi faire?
Le fait qu'il n'y ait pas de point d'interrogation rend la chose un peu plus pourquoi faire, on se demande bien, oui. Voilà, un roman pour quoi faire.
Un roman pour quoi faire, effectivement. Alors, déjà, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à mes questions et j'en aurai une dernière toute petite quand même. vous m'avez dit que vous étiez enthousiasmé par la lecture de Coma de Pierre Guyotat,
ouais,
et par la lecture d'explication de Pierre Guyotat.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous en parler à quelques petits mots?
Ah, c'est difficile d'en parler. L'explication, c'est un entretien avec Marianne Alphand.
Voilà, tout à fait.
Qui est un entretien vraiment.
Alors, qui date de l'an 2000.
C'est d'ailleurs curieux parce qu'il dit lui-même dans l'explication. Si je changeais ce bordel, enfin, il parlait de lui-même, de son imaginaire, j'aurais pu tout à fait faire autrement et parler d'autre chose. J'ai aimé qu'il puisse dire ça à un moment donné. Exactement ce que j'aurais dû vous répondre tout à l'heure quand vous me parliez de mon sujet, et j'aurais pu vous dire, allez, j'aurais pu faire quelque chose sur autre chose, mais c'est pas tellement le problème. Alors qu'on aime finalement Guyotat ou pas, c'est ça qui est très intéressant, qu'on aime l'univers de Pierre Guyotat ou pas, là, c'est deux livres de manière différente. Je pense que pratiquement rien n'a été dit depuis longtemps sur la littérature avec autant de hauteur, de force, de joie, de méfiance dans le bon sens. Enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, vous voyez, alors ce qui est curieux, c'est que je ne peux rien vous en dire de plus. Comme les très beaux livres, pour vous dire une banalité, il faut se les prendre. Et c'est des livres qui peuvent devenir fétiches. C'est-à-dire ces livres qu'on peut reprendre, refermer à l'infini. Alors, ça c'est des livres pré-fétiches pour moi, non? On va dire ça, ils vont bientôt devenir comme ça pour moi, vers des livres que je vais garder longtemps et que je vais pouvoir reprendre. Et à chaque fois que je les ouvre, je me dis, il a raison. C'est ça qui est beau aussi, c'est cette espèce d'adhérence qu'on peut avoir pour une pensée et un émerveillement. Tout à coup, il me dit, mais ça, c'est ça, quoi. Et c'est à la fois très très égoïste, parce qu'évidemment, je me projette dans ce qu'il dit et en même temps je vois sa différence et c'est ça qui est beau.
Ben merci
donc,
beaucoup.
Bon, ces deux livres sont absolument sont extraordinaires. Je les conseille vivement.
Et nous, bien entendu, à l'émission de littérature. Merci infiniment, Olivier
Merci.
Cadio, d'avoir été avec
Merci.
Nous par téléphone en direct, vraiment. Mais
voilà,
mille
été
merci.
Clair et pas trop. Je suis pas trop en berlificoté.
Absolument pas. C'était
bon,
tout à
merci.
Fait clair et vraiment mille merci pour ces réponses lumineuses.